Bon, bien, mesdames, messieurs, la cour de l'imaginaire est quasiment au complet, donc je vous remercie d'être venus malgré les chutes de neige, le Covid, enfin toutes ces choses plus ou moins désagréables. Et donc nous recevons cette année le prix La cour de l'imaginaire 2021, Jean-Jacques Jouannet. Et donc ce café littéraire est placé sous l'égide de l'ADIL, de l'Association pour la défense et l'illustration des littératures lorraines, dont la présidente Alexia Kelsen est parmi nous, qui va vous dire deux mots de ce qu'est l'ADIL.
Bonsoir tout le monde. C'est un réel plaisir de voir qu'il y a aussi autant de monde qui soit présent pour venir voir ce nouvel auteur. Pour vous présenter, donc, je suis depuis peu élue comme présidente de l'ADIL. L'ADIL est une association qui existe maintenant depuis assez longtemps. Je ne sais plus depuis combien de temps, Raymond? Le siècle dernier. Donc c'est une association qui a pour but d'aider les auteurs lorrains à se faire connaître, les aider aussi dans leur démarche. Donc voilà, je viens juste de reprendre l'association. On espère, avec une nouvelle équipe, pouvoir proposer de nouvelles choses, pouvoir proposer un peu plus de réunions littéraires. Et puis aussi, pour vous dire que ce qui est important, c'est aussi que l'association ADIL participe avec d'autres associations pour pouvoir organiser le stand des auteurs auto-édités sur le livre sur la place. Donc c'est une belle opportunité pour les auteurs locaux pour pouvoir se faire connaître. Voilà.
Bon, donc maintenant que vous savez tout sur l'ADIL, il reste la cour de l'imaginaire. Alors certains d'entre vous le savent. Qu'est-ce que la cour de l'imaginaire? C'est une association comporte trois personnes. Ariane ici, Josette, la voilà, et moi-même. Donc depuis 2012, nous avons créé ce groupe et nous faisons des appels à texte de romans dans les domaines de l'imaginaire. C'est-à-dire le domaine lumière, c'est la science-fiction, le fantastique, la fantasy. Nous recevons donc des tapuscrits et nous les lisons déjà. Nous sélectionnons l'un d'entre eux et en partenariat avec un éditeur, avec l'éditeur Roïse, nous permettons à un auteur débutant d'accéder enfin à l'édition. Quand j'entends auteur débutant, c'est quelqu'un qui a pu éventuellement déjà publier des nouvelles dans des revues, des anthologies, etc., mais qui n'a jamais eu un ouvrage édité à son nom. Alors, c'est un véritable, ce qu'on lui propose, c'est un véritable contrat d'édition, un contrat d'éditeur, ce n'est pas du compte d'auteur, et ça lui permet, le but de la manœuvre est en fait de lui mettre le pied à l'étrier de l'édition et l'encourager à continuer à écrire. Et depuis 2012, donc on en est. J'ai fait le compte, mais je ne sais plus si c'est le 8e ou le 9e prix ou ce soir, mais enfin, peu importe. Tous les autres auteurs que nous suivons ont été encouragés et ont continué, pour la plupart d'entre eux, à écrire, à publier des nouvelles, des romans, etc. C'est un peu notre but, c'est de mettre le pied à l'étrier à un écrivain débutant, et ça marche très bien. Alors, le cru 2021 a été particulièrement abondant. Est-ce que c'est l'effet du Covid? Est-ce que, on a eu 47 tapuscrits. Et comme d'habitude, on écrème et on en tire un. Autant vous dire que c'est le haut du panier, c'est le dessus du panier. Il ne s'agit pas du tout de bouquins d'amateurs. Hein. Cette année, donc, nous accueillons Jean-Jacques Jouannet avec Les Passe-temps de l'immortel, un roman fantastique. Jean-Jacques Jouannet, donc, qui nous a envoyé son ouvrage et que nous avons lu, relu. Et j'avoue qu'on n'a pas eu trop de mal à choisir parce que bon, c'était manifestement le meilleur et on n'a pas eu beaucoup d'hésitation. Et donc ce soir, Jean-Jacques Jouannet va être interviewé par les trois personnages que vous voyez autour de lui qui vont le passer à la question. Nous retrouvons, comme les autres années, Pierre Stolz, écrivain et critique à la revue Galaxy. Mona Vanson, qui est animatrice à RCN, à Radio Caraïbes Nancy, qui a fait d'ailleurs une émission ce matin avec Jean-Jacques Jouannet. Et quelqu'un que vous connaissez sans doute pour être venu les années précédentes, Gabriel Dubaski, qui est notre prix La Cour de l'Imaginaire 2018 et qui revient cette fois-ci en tant qu'interrogatrice du prix 2021. Alors, je vous parlais des auteurs qui aient continué à écrire. C'est le cas de Gabriel, puisque après l'an 1000, l'année du dragon, elle a sorti les Insoumises, qui est un peu une suite, ou un préquel plutôt d'ailleurs, avec on retrouve les personnages et l'ambiance de l'an 1000, l'année du dragon. Voilà. Bon, écoutez, j'ai assez parlé, je vais laisser la parole à l'auteur et à ses interrogateurs. Alors, je laisse la parole à Jean-Jacques Jouannet.
Merci bien. Déjà, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce succès, hein, et auxquels je dois d'être ici. Hein, je pense aux Époux, à Ariane, et puis également à l'éditeur Emmanuel Millet, et aussi à Michel Borderie, avec lequel on a discuté longuement de la couverture, de ce qu'il fallait mettre sur la couverture. Bon. Oui, donc alors il faut que je parle plus fort. Bon, sur le plan personnel, je n'ai pas grand-chose à dire me concernant, sinon que, bon, je suis parisien, déjà, depuis plusieurs générations. Donc c'est ce qui explique également que je parle beaucoup de Paris dans mon livre, que j'ai fait une carrière plutôt de juriste au départ, enfin je suis juriste au départ et j'ai fait une carrière dans la police en tant que commissaire de police, que j'ai fini, si je puis dire, c'est un mot que je n'aime pas trop, au ministère de l'Intérieur en tant que haut fonctionnaire parce que j'étais sous-directeur, et que j'étais confronté à un univers qui était un peu technocratique, qui ne laissait pas beaucoup de place à l'imaginaire, encore moins à l'imagination. Et donc c'est à cette époque-là, il y a à peu près 25-30 ans, que je me suis mis à écrire des nouvelles. Alors les nouvelles, c'était des nouvelles fantastiques, parce que c'est un peu mon genre de prédilection, que j'ai commencé, disons, à m'y intéresser à l'âge de 9-10 ans. Donc ça remonte à un certain temps, puisque je ne suis pas, pour permettre cette expression, je ne suis pas une chauve. J'ai fait comme tous les autres, tous les gens qui s'intéressent au fantastique, j'ai commencé par Verne, par Wells, etc. Puis petit à petit, je suis arrivé au fantastique, il y a Edgar Poe, Lovecraft, etc. Voilà, donc je suis pas un professionnel de l'écriture. Au bout d'un moment, je me suis lancé un peu dans l'écriture de nouvelles, dans un cycle vampirique. Et ça m'a donné l'occasion d'explorer un petit peu tous les territoires de ce domaine-là, c'est-à-dire d'un côté le vampire prédateur, tel qu'on l'imagine par exemple dans Nosferatu, mais aussi le vampire, disons, de bon aloi ou de meilleur... ou de meilleures compositions que les autres, et j'ai tenté donc de présenter un vampire qui sorte un petit peu de l'ordinaire, de faire un texte qui soit lisible un peu par tout le monde sans être forcément versé dans ce domaine-là, parce que le vampire est quand même une créature de la nuit qui rebute beaucoup de gens, et j'en suis arrivé à écrire une nouvelle qui s'appelait L'Immortel. Cette nouvelle de L'Immortel, c'était il y a à peu près 25 ans. Et un jour, j'ai rencontré un ami qui m'a suggéré d'en faire un roman. Et c'est comme ça qu'est né donc Les Passe-temps de l'Immortel. Alors, il y a évidemment un clin d'œil, hein, puisque, d'ailleurs, vous le savez dès le début du livre, le vampire en question est appelé à siéger à l'Académie française. Donc, c'est un peu un titre en forme de clin d'œil. Voilà. Bon, je ne suis... je crois que à part ça, je ne suis pas seulement axé sur le fantastique. Il m'arrive de travailler avec des revues spécialisées du classique, dans le domaine classique, comme par exemple la revue Saint-Ambroise, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est basée à Paris, et à laquelle j'ai consacré plusieurs nouvelles. Voilà.
Je vais poser la première question. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir un ancien commissaire de police, de l'interroger. D'habitude, c'est le contraire. C'est les commissaires de police qui interrogent les gens. Voilà. Alors, on va commencer par votre roman. Tout au début, votre vampire, ce n'est pas du tout un vampire, c'est un brave jeune homme, poitrinaire, mal fichu, qui aimerait réussir en littérature. Voilà. Donc il va voir qui ? Alexandre Dumas. Il va voir Alexandre Dumas, très célèbre pour ses pièces de théâtre, pas du tout encore pour ses romans, et il va lui apporter un manuscrit qu'il a intitulé « La vengeance du prisonnier du château d'If ». Alors Alexandre Dumas reçoit le bouquin, enfin le titre n'est pas bon, et puis c'est trop court, il faudrait faire beaucoup plus long. Là, et plus tard, le même garçon va aller voir Théophile Gautier. Pourquoi Théophile Gautier ? Théophile Gautier a fait des histoires de vampires, la mort amoureuse, c'est pas un hasard. Et Gautier va l'envoyer chez Gérard de Nerval. Mais il n'y arrivera jamais chez Nerval, il va être vampirisé avant. Oui ? Le mettre comme ça ? Voilà. Mais je vous en prie. Alors, cette histoire de homme et de mon, qui va voir Alexandre Dumas et lui proposer un manuscrit trop court et au titre mauvais. Mais ça fait penser à une histoire très célèbre de la littérature française. Voilà. Oui, non, mais après, ce sera le comte de Monte Cristo. Mais il y a quelqu'un d'autre qui était voir Alexandre Dumas, un véritable écrivain, très jeune, qui s'appelait Auguste Maquet. Et Auguste Maquet va voir Alexandre Dumas avec un manuscrit qui s'appelle « Le bonhomme buvat ». Buvat, ce n'est pas le verbe boire, hein. C'est B-U-V-A-T. Et Alexandre Dumas lui dit quoi ? C'est trop court et le titre n'est pas bon. Mais exactement quoi, pour votre Edmond, voilà, exactement la même chose. Sauf que Dumas va dire quand même à Auguste Maquet « Ah, ce serait bien que vous l'allongiez en changeant le titre ». Et ça va donner le chevalier d'Armental. Premier grand succès d'Alexandre Dumas. Et Alexandre Dumas va lui dire, maintenant on va faire d'autres choses. Tiens, pourquoi pas, j'ai un petit Edmond, pas encore vampire, qui m'a fait la vengeance du prisonnier du château d'If. Le titre est pas bon. Oh ben on va en faire. Oh, un conte, le comte de Monte Cristo. Et puis le brave Auguste Maquet, eh ben, il va écrire le comte de Monte Cristo, les trois mousquetaires, le chevalier de Maison Rouge, Joseph Balsamo, le collier de la reine, Ange Pitou, tout ça. Parce que quand on regarde ce qu'a écrit Alexandre Dumas, c'est impossible qu'il ait écrit tout ça. Et c'est bien Auguste Maquet qui a fait le gros du travail. Et vous aimez bien le Père Lachaise, qui était une promenade favorite. Quand vous allez au cimetière du Père Lachaise, il y a la tombe de Auguste Maquet. Alors elle est très curieuse, il y a une grande pierre tombale. D'un côté, il y a tous les titres écrits par Auguste Maquet sous son nom. J'en connaissais aucun. De l'autre côté, tous les romans qu'il a écrits sous le nom d'Alexandre Dumas. Et on trouve le comte de Monte Cristo, les trois mousquetaires, le chevalier de Maison Rouge, tout ça. Voilà. Alors vous avez que oui. Quelque chose à dire sur Maquet ou hasard?
Bah, non, c'est pas tout à fait un hasard. Bon, à l'époque, effectivement, il n'a pas encore écrit tout ça. C'est pour ça que je parle de l'auteur de Keane, hein, oui, oui. Notamment. Hein. Voilà, donc à l'époque, c'est... Mais bon, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que par la suite, et on a tendance à l'oublier, c'est qu'Alexandre Dumas a écrit aussi dans le domaine fantastique. Et je crois que ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ce siècle, le 19e, qui a été extrêmement riche au point de vue littéraire, il y a finalement relativement peu d'auteurs qui n'aient pas trempé leur plume dans le fantastique. Je pense que Lamartine, ça n'a pas été le cas, Chateaubriand non plus, Stendhal non plus, Émile Zola non plus, mais qu'en revanche, il y a énormément d'auteurs qui... Même Maupassant, évidemment, Maupassant, vous le savez, il y a Théophile Gautier, il y a Charles Nodier, et il y a Balzac, avec La peau de chagrin, par exemple. Et donc, ça a été un siècle qui a été marqué donc, par l'éclosion de ce fantastique littéraire, et qui, n'a pas été rarement reconduit, je dirais, au XXe siècle. Il a été rarement reconduit, je ne parle pas par les auteurs spécialisés, mais enfin, les grands auteurs du XXe siècle, n'ont rarement donné dans le domaine fantastique.
Donc déjà, bienvenue dans le cercle des auteurs de la cour de l'imaginaire. Moi aussi, j'ai bien évidemment remarqué ce clin d'œil au comte de Monte Cristo, il est complètement évident, surtout qu'il arrive très très vite. Et je me suis demandé si le prénom du héros, Edmond, était également un clin d'œil à Edmond Dantès. Probablement que oui. Non. Moi aussi. Alors, je l'ai cru, j'ai cru que c'était un clin d'œil à Edmond Dantès. Et pour tout vous dire, je ne veux rien dévoiler de la trame du roman, mais j'ai tout à fait cru initialement que le passe-temps donc de l'immortel, ce serait d'être le nègre, entre guillemets, d'Alexandre Dumas. Je me suis dit, voilà, il est arrivé, hop, il va devenir le nègre d'Alexandre Dumas. Mais ce n'est pas du tout ça qui se passe dans le roman, loin de là. Alors, qu'est-ce que je voulais ? Alors, moi j'ai eu la chance, ou la malchance, de lire tout ce que vous avez fait passer à la cour de l'imaginaire. Donc, je sais déjà plein de choses sur vous et sur votre écriture. Donc, ce que je vais quand même révéler aux lecteurs, c'est que c'est une promenade dans l'histoire au cours d'événements historiques marquants. Et je me suis même... Maintenant que je sais que vous êtes commissaire de police, ça m'avait échappé. Effectivement, votre vampire enquête. Et enquête notamment sur les crimes de Jacques l'Éventreur. Donc, est-ce que vous êtes inspiré directement de scènes de crimes que vous avez vues ou connues ?
En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et je vais être obligé de faire un terrible aveu. Un terrible aveu que... Bon. Au départ, je vous ai dit, c'était une nouvelle qui faisait à peu près 20-25 pages, dont le début et la fin sont exactement pareils, d'ailleurs, à peu de choses près. Et puis, je me suis dit, par rapport à... C'était une nouvelle incomplète. J'en ai fait qui était complète, bonne ou mauvaise, ça avec des fortunes diverses, dirais-je. Mais celle-là, il fallait la transformer pour qu'elle tienne la route, il fallait la transformer en roman. Donc, j'ai fait des emprunts à moi-même. Voilà, et j'ai pas honte de le dire. J'avais écrit une nouvelle sur Jacques l'Éventreur qui était une nouvelle que j'avais jamais présentée, mais qui n'était pas du tout, qui lorgnait plutôt presque sur la SF, puisque j'imaginais un tueur, Jacques l'Éventreur, qui en fait était un extraterrestre. Bon, je crois que ça n'avait jamais été fait. De même qu'on n'avait jamais trouvé de vampire élu à l'Académie française. Et je me suis inspiré de cette nouvelle largement, pour laquelle j'avais énormément travaillé. Il y avait une documentation qui était très fouillée sur cette histoire. Évidemment, je l'ai accommodée à la sauce d'Edmond Fierville, si je puis dire, pour qu'elle tienne la route. Mais c'est si vous lisez ce passage, vous verrez que tout est exact. En ce qui concerne, disons, Jacques l'Éventreur, les personnages qui tournent autour, etc. Alors évidemment, la conclusion n'est pas la même. La conclusion que je me tiendrai de dire. Donc j'ai fait un emprunt, comme également j'ai fait un autre emprunt concernant le passage qui se passe en Roumanie, mais je n'y reviendrai pas maintenant. Voilà.
Alors Edmond, après avoir rencontré les auteurs, est un peu dépité parce qu'il sait qu'il est malade et qu'il n'aura donc pas le temps de mûrir son style. Il erre donc dans Paris et là, il rencontre une jeune femme, Sonia.
Oui, alors, il y a deux grands personnages autour d'Edmond Fierville, c'est-à-dire de mon vampire, pour lequel je me suis pris d'affection, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait un récit et que je n'ai pas voulu le faire à la troisième personne. Vous verrez, c'est un personnage qui finalement est relativement attachant, et il est converti par une femme qui, au sortir, effectivement, comme l'a dit Pierre Stoltz, au sortir d'une rencontre avec... Alors c'est un garçon chétif, qui est malade, qui est malingre, qui est promis à la mort dans peu de temps, qui est phtisique, qui etc. Et il tombe sur... Il a la chance de rencontrer... La chance, si on peut dire, de rencontrer Sonia, qui est un vampire, et qui le convertit. Hein, c'est un peu la condition de sa renaissance. Et donc Sonia est une femme vampire avec laquelle il aura une liaison qui durera pendant des décennies, peut-être même jusqu'à une centaine d'années. Voilà. Et il y a un autre personnage également qui deviendra son mentor et son ami, qui s'appelle Axel, et qui sera le chef de la communauté. Parce qu'en fait, ce vampire a une fonction très précise, c'est celle de régulateur. C'est-à-dire qu'il doit mettre hors d'état de nuire tous les gens qui commettent des crimes et qui peuvent, de cette façon-là, attirer l'attention de la police sur la communauté vampirique. Donc, ça va être un tueur qui sera évidemment transformé physiquement, mais encore qui ne sera pas le vampire tel qu'on le connaît habituellement, c'est-à-dire qu'il ne tue que par nécessité. Voilà.
Ah oui, dans cette histoire de vampire, il n'y a pas de gousse d'ail, de croix, de machin comme ça. Hein. Voilà. Pas de pieux. Mais quand même, alors, et oui, il s'appelle Edmond. Moi, ça me fait penser à un autre petit vampire qui s'appelle Fernand. Fernand le petit vampire. La bande dessinée de soir. Ça a donné une série à la télévision et puis un film. Seulement, autant Fernand le mignon petit vampire, c'est pour les enfants, autant Edmond, c'est pas pour les enfants. Parce que la Sonia, c'est une superbe créature. Et je veux dire, si le sang coule à flot, le sperme aussi coule à flot dans ce livre. Oh mon Dieu. Mais c'est vrai que Eros et Thanatos, ça fonctionne ensemble. Et très souvent, dans les histoires de vampires de Dracula, il y a des films comme Les Maîtresses de Dracula. Ah oui, ou Dracula et les femmes. Alors là, c'est aussi Edmond et les femmes. Je pense que c'est pas un hasard. Il y a tellement de créatures magnifiques dans ce livre.
C'est-à-dire que, bon, comme le dit Alain Pozzuoli et beaucoup d'autres, le vampirisme et l'érotisme font très bon ménage. Hein, et même on a, je crois, dans Le Cauchemar de Dracula, où on voit une femme embrasser le torse de Christopher Lee, et évidemment on pense tout de suite à autre chose. Hein, donc automatiquement. Voilà.
Alors justement, à propos des femmes, donc ce vampire est né sous un règne, le règne d'un roi mal aimé, comme vous le dites vous-même, a traversé des événements marquants, hein, comme la Commune de Paris. Il est né donc dans un siècle bien, bien précis, une société bien particulière. Il évolue dans une communauté qui est fermée, hein, puisque c'est une communauté qui se cache. Et il ne rencontre donc que des femmes qui sont inconstantes, voire volages, ou peu éduquées, ou prostituées. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est parce que le personnage est figé dans son propre monde, en fait?
C'est très fantasmatique.
Oui, j'ai pas tout à fait la même opinion. Personnellement, je pense que mes personnages féminins sont peut-être plus attachants que mes personnages masculins. Hein, bon, maintenant, il y a aussi le poids des traditions qui forcément joue au XIXe siècle d'une autre façon. Mais bon, Sonia, qui est sa maîtresse pendant très, très longtemps, c'est une femme qui est très attachante. Et puis même la prostituée qu'il rencontre dans ses pérégrinations avec Jacques l'Éventreur. Et alors, je passe après sur tout ce qui se passe sur les bords de Loire. Parce que comme il va se retrouver évidemment dans une situation très, très délicate, il va être un peu exilé, hein, exclu. Là, il va faire des rencontres et il va rencontrer des femmes formidables. Donc, je pense que c'est... Enfin, personnellement, je tends à penser que mes personnages féminins sont plus, disons, agréables que mes personnages masculins.
Je vais vous taquiner un peu. Votre vampire... qui est un personnage attachant. Hein, oui, j'aime beaucoup le personnage de Sonia également. Hein, votre vampire rencontre tout un tas d'écrivains que moi j'adore personnellement aussi, notamment Jules Vallès, mais il ne rencontre jamais d'écrivaine ou d'autrice, alors qu'il y en a, si vous voulez, quand même. Et oui, et il se trouve que j'ai eu ma réponse dans les deux, trois dernières lignes de l'avant-dernière page, où vous faites un magnifique hommage aux écrivaines qu'il aurait pu rencontrer, mais qu'il n'a pas rencontré. Et j'ai trouvé, personnellement, je me suis dit, ce vampire, il est figé dans son éducation, ce petit bourgeois, en fait, du 19e siècle.
En passant, quand même, il y a beaucoup d'auteurs ou d'autrices qui sont cités. Il y a une multitude. Par exemple, et je notais, il y a la marquise de Sévigné, Madame de Lafayette, Madame de Staël, la comtesse de Ségur, Georges Sand et Colette. Non, mais ça ne fait rien, mais quand même, elles sont citées.
Oui, il n'y a pas du tout de parti pris de mon point de vue, et c'est pour ça, d'ailleurs, je les ai citées en pensant qu'elles auraient dû certainement être élues à l'Académie française. C'est des femmes qui méritaient... Voilà, rencontrer pareillement, là, il aurait fallu que je lui fasse rencontrer Georges Sand. J'aurais pu lui faire rencontrer, effectivement, parce que l'Indre, c'est pas très loin du Cher et du Loir-et-Cher. J'aurais pu lui faire rencontrer Georges Sand, mais il serait peut-être tombé amoureux de Georges Sand, hein, certainement même. Et ça aurait donné un résultat assez explosif. Donc, voilà.
Alors, la vie de vampire n'est quand même pas très simple. Ils ont besoin de se sustenter et donc ils doivent trouver du sang. Votre parcours du sang, quand vous le décrivez, leur circuit, j'ai trouvé ça très très rigolo.
Oui, alors c'est un vampire, ce sont des vampires qui doivent se procurer du sang et ils le font en général en allant voir des hôpitaux, en allant. Mais là aussi, il y a quelque chose à dire, c'est que quand ils ont aussi la possibilité de ce ne sont pas déjà des gens qui boivent des litres de sang, pour moi, hein, ce sont des gens qui sont limités un petit peu dans leurs excès. Et pour parler justement du sang, là, il y a un épisode qui se passe en Normandie. Hein, pour ceux qui connaissent un peu la Normandie, ça pourrait les intéresser, notamment la Côte Fleurie. Et il découvre le mentor d'Edmond, c'est-à-dire du héros, découvre qu'il y a effectivement une possibilité de trouver un substitut au sang d'origine humaine. Alors ceci existe, hein, effectivement, c'est le sang des arénicoles. Je ne sais pas si vous connaissez les arénicoles. Alors les arénicoles, je dis ça parce que je suis pêcheur, je ne suis pas seulement pêcheur avec un accent grave, mais aussi avec un accent circonflexe. Et donc... il m'est arrivé de manier la pelle pour essayer de trouver ces abominables vers tout gluants, mais qui sont gorgés de sang. Et on a découvert, c'est pas une plaisanterie, on a découvert récemment qu'il y avait une certaine parenté entre le sang d'origine humaine et celui de ces animaux qui sont vraiment gorgés de sang. Et cela pourrait servir notamment dans certains domaines pour les transfusions, etc. Voilà.
Il y a eu un reportage à la télévision justement sur ces vers de sable tout récemment. On pense qu'on va pouvoir bientôt remplacer le plasma humain par le plasma de ces vers de sable. Ils ne sont pas jolis, mais qui sont quand même intéressants. Alors je voudrais poser des questions tout à fait différentes, c'est sur les différents lieux de votre roman. Alors ce n'est pas n'importe quel lieu. Déjà il y a le Père Lachaise, où vous êtes beaucoup promené, où c'est là que votre vampire va rencontrer Jules Vallès. Mais il y a aussi, par exemple, le cinéma Midi Minuit. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, je peux en parler parce que, étant un vieux Parisien, même un très vieux Parisien, j'ai vécu pendant une vingtaine d'années à Paris, il y avait à Paris ce qu'on appelait des temples du fantastique. C'était notamment le Brady, qui existe toujours, qui est boulevard de Strasbourg. Il y avait le Colorado, qui était donc Place Blanche. Et il y avait également, et surtout, le Midi Minuit, qui est un cinéma qui a disparu, mais qui projetait en exclusivité tous les films de la firme La Hammer. Alors c'est là, par exemple, qu'a été projeté Le Cauchemar de Dracula, qui avait entraîné d'ailleurs, drainé beaucoup de monde à l'époque, et que j'étais bien trop jeune pour pouvoir y aller, parce que c'était interdit au moins de 16 ans. Et par la suite... Il y a eu beaucoup de... Par contre, j'ai réussi à voir Dracula, Prince des Ténèbres, toujours avec le même Christopher Lee, parce que c'était un peu un temple. Mais c'était encore une fois, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait le fantastique n'avait pas énormément... L'épouvante, parce qu'en fait, c'était surtout l'épouvante de l'horreur, n'avait pas droit de cité, était généralement snobé par les cahiers du cinéma, etc. Alors que c'était des films qui souvent étaient très bien réalisés, avec des qualités techniques. Voilà, donc c'était un petit peu dommage, mais c'est le midi minuit, effectivement, c'était le temple du fantastique, c'est là qu'il y avait le cinéma projeté en exclusivité.
Encore un mot sur le midi minuit. En fait, c'est les séances commençaient à midi, vous pouvez rentrer à midi et sortir à minuit. Et c'était des films en continu. Et des cinémas midi, minuit, il y en avait partout. Il y en avait un où à Nancy, Place Thiers, à 200 mètres d'ici. Et quand j'étais étudiant, j'allais souvent voir des films au midi, minuit. Là où maintenant, il y a cette espèce de moche tour. Il y avait le restaurant Thiers gastronomique. Il y avait le midi, minuit, où j'allais souvent. Il y avait la civette où j'achetais mes pipes. Oh mon Dieu, tout ça a disparu. Et il reste encore un cinéma midi, minuit à Bruxelles. Oui, c'est le... Oh, j'ai vérifié sur Internet pour voir, parce que c'est quand même un cinéma que j'aimais beaucoup. Alors, autrement, un autre lieu qui m'a beaucoup intéressé, c'est les sous-sols du ministère de l'Intérieur, place Beauvau.
Alors là, je vais pouvoir vous en parler encore plus savamment, parce que, bon, quand j'ai occupé des fonctions de sous-directeur au ministère de l'Intérieur, j'étais au quatrième étage, et... quatrième étage, c'était des petits bureaux, hein. c'était pas grand chose, enfin, je veux dire, le prix du mètre carré est très cher, place Beauvau. Et nous, on était du côté, donc, rue des Saussets. Et de l'autre côté du couloir, il y avait une armurerie, où, les gens venaient pour s'entraîner à tirer, donc ils venaient chercher leurs armes ici, mais avant, ça a été un local qui a servi pendant la guerre comme lieu de transit. Lieu de transit, c'est-à-dire vous avez des gens qui étaient enfermés là avant d'être conduits, alors ou d'être libérés, ou ça, conduits pour interrogatoire ou pour être torturés. Parce que c'est malheureusement comme ça que ça se passait. Et heureusement, j'ai un collègue, quand ça a été transformé en armurerie, qui a eu l'idée géniale de les faire recouvrir, de faire recouvrir les inscriptions par des plaques de verre. Et c'était assez édifiant, ça, vous voyez, des gens qui mettaient leur nom, notamment, je me souviens d'une inscription, c'est cette salope de machine qui m'a vendu au Bosch, etc. Enfin, vous aviez des inscriptions comme ça. Et j'y ai trouvé d'ailleurs également une inscription, Chombard de l'eau. Alors, Chombard de l'eau, c'est une famille dont la... Il n'y avait pas le prénom, hein, Chombardelot, mais je pense que c'est elle. On la voit de temps en temps, on l'a vu de temps en temps à la télévision. C'est une femme donc, qui a été arrêtée en Bretagne, qui a transité certainement par la rue des Saussets, puis qui après s'est retrouvée donc, dans un camp de concentration dont elle est sortie, heureusement. Et je crois que maintenant, elle doit approcher la centaine d'années. Je crois qu'elle est encore vivante et on la voit, elle a témoigné encore sur cette période. Je crois que c'était Ravensbrück où elle était. Elle a témoigné encore sur cette période il y a quelques temps. Alors, il faut savoir également que place Beauvau, vous aviez la rue des Saussets qui était comme ça, et un peu plus loin la place Beauvau, parce que tout communiquait. D'ailleurs, pendant la guerre, les Allemands ont créé une passerelle qui reliait donc la rue des Saussets à la rue Cambacérès. Donc, ils avaient également des bureaux. Ils ont créé donc cette passerelle que j'ai empruntée des milliers de fois. Vous aviez des sous-sols, donc place Beauvau, que j'ai tenu à visiter. Alors à l'époque, j'étais bien loin d'imaginer qu'un jour j'écrirais quelque chose là-dessus, mais j'avais tenu à la visiter parce qu'il y avait quand même encore quelques archives papier qui étaient entreposées, et c'était quelque chose d'effrayant. C'est-à-dire que quand vous descendiez là, vous aviez une espèce de... Ça faisait un petit peu comme un souterrain, comme une galerie. Et vous imaginiez facilement l'allure, la tête que pouvaient faire les pauvres gens qui étaient condamnés là. Et vous aviez encore des salles de torture. Alors évidemment, il n'y avait plus les baignoires hein, dont on parlait dans le temps, ni les crocs de boucher, etc. Mais il faut savoir que ça existait. Et maintenant, je crois que ça a été complètement réaménagé. Alors, pour l'ironie de l'histoire, ça je ne l'ai pas dit, c'est que tout à côté, il y avait la cave du ministre. Hein, voilà, la cave personnelle du ministre. Alors tout ça, ça a été bon. Maintenant, je pense qu'on ne reconnaîtrait pas les lieux. Mais quand vous alliez là, et que vous voyez les pièces où ces choses-là s'étaient passées, franchement, ça, ça vous faisait vraiment froid dans le dos. Voilà, donc j'ai eu ça. Alors je sais qu'également au cinquième étage, où était la police judiciaire, il y avait également un peu un local de transit, etc. Un peu dans le même genre que celui que nous avions au quatrième étage. Mais ça, c'est malheureusement, ça a disparu, mais c'est franchement, vous étiez très pris quand vous descendiez ces locaux. Ouais, voilà.
Non, allez-y.
Un autre lieu, c'est à la fin du roman, on se retrouve en Roumanie. Alors on se dit, bon sang, en Roumanie, c'est Dracula. On va voir au château de Dracula. On va nous parler de Vlad l'Empaleur. Mais non, c'est un tout à fait autre vampire, tout à fait épouvantable dont vous parlez.
Oui, alors c'est peut-être le passage où l'horreur est la plus présente. Je crois que c'est... Alors là c'est pareil. Bon, j'ai pas mal étudié la Roumanie sous beaucoup d'angles. Et c'est effectivement là qu'on voit, on voit ce que... Alors, pourquoi ce passage? Alors, ce passage, c'est pour une raison très simple, c'est que, mais vous le lirez, quand vous lirez le livre, vous en apercevrez, c'est parce que ça constitue en quelque sorte un testament de l'ami et mentor d'Edmond, c'est-à-dire Axel. Et ça peut servir pour lui, dans son esprit, ça peut servir de monnaie d'échange. C'est-à-dire que c'est un journal. En fait, c'est un journal qui relate des faits qui se sont produits dans un monastère roumain de Moldavie et qui est dirigé donc de main de maître par un vampire. Voilà.
Alors, moi, je vais plus parler des lieux. J'ai été très, très marquée, effectivement, hein, par la lettre, hein. La lettre finale dans ce monastère roumain où finalement on se rend compte que la communauté des vampires est rejointe par l'actualité et les événements les plus atroces de notre société. Donc à tout promenade dans des lieux que votre imaginaire a recyclés, notamment ces fameuses caves. J'étais très impressionnée aussi par l'histoire des plaques de verre. On promenade, attention Raymond, promenade dans les événements historiques. Moi, il m'est venu, j'ai vu que vous aviez écrit énormément de nouvelles, hein, publiées dans des anthologies. Est-ce que le fait d'écrire des nouvelles vous a apporté quelque chose à la construction de ce roman?
D'une certaine façon, oui, puisque c'est en fait, au départ, c'est une nouvelle. Mais bon, les nouvelles, c'est simple. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'arrivais un petit peu au terme de ma carrière professionnelle. C'était pas toujours très drôle. Bon, c'est pas, je me plains pas. Hein. C'est pas la question. Enfin, j'avais beaucoup, disons, j'écrivais beaucoup, mais c'était dans un domaine qui était beaucoup plus administratif. Et donc, bah, de temps en temps, le week-end, j'avoue que ça me faisait plaisir de prendre la plume pour écrire autre chose. Quoi. Voilà, hein. Donc c'est surtout ça. Maintenant, aussi, c'est lié à mon mode de fonctionnement, hein, qui est ce qu'il est. C'est-à-dire que, personnellement, je préfère, si vous voulez, faire participer à des appels à texte ou à des concours, ce que je fais assez régulièrement. Et puis d'ailleurs, chaque année, je concours pour le prix Alain Le Bussy, hein, donc, qui est chez Galaxy. Et donc, je préfère ça plutôt que d'aller courir dans d'autres domaines, parce que je n'écris pas seulement, de l'horreur ou de la science-fiction ou du fantastique. Je préfère ça plutôt que... Et c'est comme ça d'ailleurs que... Il faut savoir que les passe-temps de l'immortel, j'ai failli pas du tout concourir. Hein. J'étais pas du tout... je me suis dit, bon, ça va pas marcher, c'est pas la peine, je laisse tomber. Et puis, bon, j'ai eu la divine surprise, si vous voulez, la divine surprise que ça marche. Mais c'est souvent comme ça. Hein. Vous pensez écrire quelque chose de bien, et puis, personne ne vous répond. Et puis parfois, bah, par hasard, vous faites autre chose, hein, vous essayez autre chose, Et puis, ça, et vous avez une divine surprise. Bon, ça m'est arrivé pour des concours de nouvelles classiques, hein, de type classique qui n'ont rien à voir avec, avec le fantastique. Mais je, personnellement, je préfère ce mode de fonctionnement, si vous voulez, qu'à d'aller courir les éditeurs. Hein, surtout que les éditeurs, ils sont ce qu'ils sont. Hein, je les critique pas. Non mais je les critique pas. C'est pas une critique. Mais ils voient arriver tout un tas de manuscrits, de choses, etc. chez eux. Et parfois, bon, leur domaine de choix était effectivement très limité. Et donc, personnellement, c'est pour ça que je fonctionne comme ça. Je préfère encore une fois. Bon, là, c'était un prix littéraire. Donc il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de passe droit, il n'y a rien. Bon, j'ai fait la connaissance de gens merveilleux à cette occasion, mais je ne les connaissais pas avant, ils ne me connaissaient pas non plus. Bon, donc on est un peu sur la même ligne de départ, et puis bon, ça marche ou ça ne marche pas. Voilà, je crois que j'ai répondu le plus sincèrement possible à votre question.
Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Je ne vais pas vous poser de question, Jean-Jacques. En fait, je ne posais pas du tout la question, c'était pas la question que je posais. Moi, ce que je vous demandais ce que. Avoir écrit les nouvelles avait pu apporter à votre écriture dans ce roman-là. Bon, évidemment, le départ, c'est une nouvelle, mais moi, ce que j'ai trouvé en le lisant, c'était que ça pourrait être un feuilleton, une série, si vous voulez. Voilà. Et donc, il me semblait que la nouvelle vous avait apporté ce type de séquençage, si vous voulez, dans le roman. Voilà. C'était un petit, je pense que c'était ce que je voulais vous faire dire.
C'est vraiment du roman feuilleton. Exactement comme on en faisait au 19e, et je vais dire, c'est remarquablement écrit. Alors là, j'ai été sidéré pour un premier roman à tel niveau d'écriture. Moi, mon premier roman, vaut mieux pas le relire. Hein.
Oui, effectivement, bon, c'est dû aussi au fait que je l'ai... le premier qui l'a lu m'a dit que c'était un découpage feuilletonesque. Hein, que c'était un découpage feuilletonesque, c'est-à-dire que, bon... à la limite, on pourra en faire une série, quoi. Alors, on pourra reprocher effectivement que parfois je saute un peu du coq à l'âne parce que on passe un peu d'une période à une autre. Hein, puisqu'on parlait du sang, il est évident qu'en plus le sang est très présent dans tous les événements, puisque il y a les guerres, il y a les révoltes, il y a les révolutions, etc. Donc, c'est aussi des moyens pour eux de se procurer du sang. Et puis quand ils n'en ont pas, bon, bah, ils font comme ce pauvre Edmond, ils s'en procurent d'une manière un peu spéciale. Enfin bon, ça c'est autre chose, je ne veux pas déflorer tout le passage qui se passe dans le Loiret. Mais effectivement, je crois que c'est la nouvelle, quand vous écrivez une nouvelle, l'avantage c'est que vous savez comment elle commence et puis comment elle se termine. Bon, là j'avais le début et la fin. Donc bah, j'ai meublé, puis bon, finalement, je pense que le résultat n'est pas si mal, finalement. Et effectivement, c'est un découpage feuilletonesque, hein, avec ses avantages et puis aussi ses inconvénients, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les feuilletons non plus. Hein. Voilà.
Pourtant, je trouve qu'on suit très très bien le personnage, du début jusqu'à la fin, qu'il soit au moment de la commune, qu'il soit pendant la guerre 14-18. Dire 14-18, si vous allez dans un hôpital militaire pour avoir du sang. Ça, c'est facile. Hein. La commune, alors à chaque fois, il va là où il y a du sang. Mais donc, même si c'est un feuilleton, il y a vraiment un suivi du début jusqu'à la fin.
Alors, vous dites que vous écrivez des nouvelles fantastiques, un roman fantastique, mais vous écrivez aussi des nouvelles classiques. Vous y prenez autant de plaisir? Et est-ce que vous avez déjà quelque chose dans vos tiroirs encore?
Dans mes tiroirs, c'est pas moi de le dire, c'est à ceux qui me liront éventuellement. Hein, si, bon, mais je crois effectivement que dans les autres domaines, j'écris aussi des pièces de théâtre, hein, accessoirement, mais je ne suis pas ancré uniquement sur le fantastique. C'est mon domaine de prédilection, c'est celui qui m'a fait connaître, auquel je dois beaucoup, donc, hein, c'est évident. Et puis, bon, c'est de toute façon, j'y reviens toujours, mais j'éprouve autant de plaisir à écrire des nouvelles. Alors, je vous dis, avec plus ou moins de talent et plus ou moins de succès, mais j'aime aussi la nouvelle de type tout à fait classique.
Vous écrivez du théâtre aussi. Vous n'êtes jamais inscrit pour le concours Aristophane? Ah bon, alors vous connaissez.
Oui, oui, mais j'ai une pièce qui a été publiée c'était Jean Trouge, je crois. Une pièce de science-fiction, effectivement, qui est d'ailleurs d'un très très classique. Très classique, qui revisite un peu les thèmes classiques. Voilà. Donc. Alors le théâtre des science-fiction, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut vraiment trouver le bon créneau. Et voilà. Bon, j'ai aussi pris des, comme on dit, des vestes avec le prix Aristophane des science-fiction. Hein. J'en ai présenté une, par exemple, il y a 2 ans, qui n'a pas été retenue. Hein, mais ça, c'est à l'appréciation. Encore une fois, bon, il faut prendre les choses comme elles viennent.
Je pourrais vous demander encore, n'a pas été demandé. Alors, quand j'étais à votre place en 2018, on m'a demandé, puisque moi aussi j'écris des nouvelles, on m'a demandé si je préférais, à l'époque c'était Nadia, si je préférais écrire des nouvelles ou si j'avais préféré écrire un roman. C'est une question que je trouve difficile. Ou si je préférais la littérature fantastique ou si je préférais écrire ce qu'on appelle la littérature blanche. Donc je vous la pose aussi, c'est pas facile, je trouve, d'y répondre. Ou alors c'est très simple.
En fait, je prends un peu les choses comme elles viennent. Hein. C'est-à-dire que si j'ai une idée bonne ou mauvaise, peu importe. Enfin, en général, quand elle est mauvaise, j'en prends mon parti et ça finit à la poubelle. Mais je veux dire, ça dépend. Puis, je suis tellement plongé dans le fantastique que j'aime bien aussi de temps en temps changer d'air, si vous permettez, c'est-à-dire trouver autre chose ailleurs. Mais il y a souvent, même dans des nouvelles classiques, il y a souvent une petite part de fantastique, de petites choses, un petit truc qui vient se greffer dedans, parce que bon, on se refait pas. Si vous voilà.
Un autre lieu, on va parler d'un lieu que j'aime beaucoup, le Cher. Ah, le Cher. Et puis, j'ai lu un de vos textes où vous parlez le Cher. Vous citez un tas de vins. Le Sancerre, le Pouilly Fumé, le Menet tout salon, le Côte Génois. Oh, alors, moi, j'ai rajouté d'autres. Le Reuilly. Le Reuilly, c'est le vin que je préfère. Oui, le Reuilly. Il y a aussi le Quincy. Alors, toujours dans le Cher. Le Château Meillan. Oh, mon Dieu, quel pays magnifique.
Oui, oui, parce que j'ai séjourné enfin pendant des vacances. Pendant mes vacances, je suis allé souvent dans le Cher, et où je me serais peut-être embêté parce que je suis plutôt des côtes. Je me serais plutôt embêté. Puis c'est là que j'ai découvert une véritable passion pour la pêche à la ligne. Alors il est évident que tous les lieux que je décris là, ils sont exacts. Je les ai prospectés. J'y ai passé des heures, parfois en revenant bredouille, parfois en revenant avec une grosse carpe ou un cendre ou un brochet. Mais c'est une région à laquelle je suis profondément attaché. Et puis également, bon, c'est vrai qu'on avait j'allais chercher du Sancerre régulièrement. Et puis les autres d'ailleurs Sancerre qui a été élu le village de l'année, je crois, l'année dernière. Et c'est une région qui est attachante, qui est très jolie, et puis qui est extrêmement irriguée, hein, ce qui ne gâte rien. Voilà.
D'autres questions, oui.
Ça va, ça reviendra. Si, je voulais vous demander, Edmond écrit son journal, puisqu'il n'a pas renoncé à la littérature. Donc je me demandais si vous, qui avez une vie un petit peu passionnante, un petit peu particulière, est-ce que vous écrivez aussi votre journal ?
C'est une excellente question parce que, encore une fois, je critique pas, hein, je m'abstiens de critiquer, de même que je ne vais pas critiquer ceux qui font des vampires pour adolescents ou ceux qui les transforment en fumée en rat. Bon, ça c'est pas assez, non mais je veux dire, c'est pas ma logique, pour moi c'est un vivant mort. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors l'autobiographie. Alors, si vous voulez, j'ai des collègues, bon, dans ma profession, qui est évident, ils est évident qu'ils sont connus des expériences extraordinaires, notamment à la criminelle, à la brigade criminelle, qui ont donné lieu à des enquêtes parfois que tout le monde connaît ici, de tueurs en série, etc., ou d'autres. Voilà. Personnellement, je dis personnellement, mais encore une fois, je ne suis pas meilleur qu'un autre, hein, je tiens à dire ça de manière très claire. Je pense qu'il y a tellement de territoires à explorer dans le domaine de la fonte du fantastique, de l'imaginaire et d'autres, que je me suis toujours refusé à tenir. J'aurais pu garder plein de notes, etc., mais je me suis toujours refusé, alors que j'ai parfois été, par les circonstances, un peu au centre des choses aussi, je me suis toujours refusé à écrire sur ma profession. Je pense qu'il y a d'autres gens pour le faire, qu'il y a d'autres territoires, et surtout qu'il y a d'autres territoires à explorer, mais je n'ai jamais voulu, j'aurais pu le faire. Franchement, j'aurais pu également décrire certains mécanismes, certaines choses, etc. Parce que, bon, encore une fois, bon, il se trouve que j'ai été parfois au carrefour de certaines informations et tout, que j'ai connu, j'ai fréquenté des ministres, enfin des futurs ministres, etc. Mais ça, je me suis toujours refusé personnellement. Encore une fois, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Hein, mais je veux dire, c'était pas mon truc. Quoi. Moi, je préférais donner dans l'imaginaire, dans ce qui me faisait plaisir, plutôt que de récapituler un peu ma vie professionnelle.
Ou dans le public, de façon.
Oui, à propos de votre style, quand j'ai découvert votre livre, j'ai été absolument cœur pour votre style. Dans le meilleur temps du tout, j'ai aperçu qu'il évoluait au fil du temps, c'est-à-dire qu'aux époques que vous décriviez, les années 1950, on trouve un style qui se rapproche assez de celui qui est évoqué par les films noirs, les films de gangsters, etc. Ensuite, j'ai lu une nouvelle de vous qui est parue dans une anthologie en hommage à Asimov, et trouvé un style qui était tout à fait différent, excellent aussi, et qui se rapprochait de celui d'Asimov. Et donc, je me demandais si ces changements de style était tout à fait conscient, voulu, travailler, ou bien si vous vous imprégniez tellement de l'univers dans lequel vous vous trouvez que spontanément vous écrivez à la manière du personnage ou de l'auteur qui aurait pu être à votre place.
Je crois que votre explication, la deuxième explication, est la bonne. Hein. C'est que quand je suis plongé dans quelque chose, je m'adapte en fin de compte. Hein. Je m'adapte au sujet. Hein. Et donc, c'est ce qui explique c'est un peu ces transgressions. Bon, si je fais du policier, ça m'est arrivé d'écrire des nouvelles policières. Si je fais du policier, ça sera autre chose. Ça sera forcément une autre façon de voir, un autre langage. Bon, puis là, je suis quand même tenu effectivement par les époques. D'une certaine façon, donc c'est un peu naturel. Hein. On n'écrit pas de la même façon au 19e, on n'écrit pas de la même façon des événements qui se passent au 19e qu'au 20e ou au 21e siècle. Je pense que donc c'est une adaptation, mais il n'y a pas de. Je pense que c'est naturel, mais qu'il n'y a pas de calcul de ma part, disons. Voilà. Je crois que vous êtes trop aimable avec moi.
Non, mais c'est vraiment très très bien écrit. Vous n'avez jamais fait d'études littéraires.
Non, pas vraiment. Et alors j'ai un déficit énorme, c'est que je n'ai jamais fait de latin ni de grec. Voilà. Ce qui est bon, pourquoi? Pour des raisons, qui différentes, voilà. Et bon, ça a été un handicap. Je regrette de pas en avoir, je regrette de pas avoir fait de latin.
J'étais prof de latin grec au Brésil.
Quelqu'un voulait intervenir? Je vous passerai après. Ça. Alors, madame.
Pour ce qui concerne le latin, moi j'ai été professeur de latin grec pendant des années et je peux donner des cours particuliers. Il n'y a pas d'âge, c'est comme Tintin. Par ailleurs, je voulais vous demander si vous êtes un grand lecteur et si vous lisez du classique, du moins classique, est-ce que vous êtes un grand lecteur? Les autres.
Oui, effectivement, j'ai pas mal lu, sauf quand, disons que mes activités professionnelles me l'interdisaient, parce que j'ai eu des semaines quand même qui ont été, ou des mois et même des années qui ont été assez, assez prises. Personnellement, je lis un peu de tout, mais j'aime bien me replonger dans les classiques. Il y a eu le confinement, vous savez, bon, maintenant je suis retraité, donc j'ai plus de temps. Il y a eu le confinement, bon, bah, ça m'a permis de relire Proust, par exemple, ou Balzac, Maupassant, etc. Enfin, je reviens souvent à la littérature classique, bon, ce qui ne m'empêche pas de lire autre chose, hein, bien sûr, de la science-fiction, mais je crois que c'est indispensable de revenir à ce que je considère comme des fondamentaux, quoi. Voilà, donc, là, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà.
Et bonsoir à tous. Voilà. Vous m'entendez? Oui, alors, au début de notre rencontre, vous avez prononcé le mot fantôme. Et par la suite, j'ai suivi avec effroi vos propos sur ce terrible souterrain. Alors, voilà ma question. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous croyez aux fantômes?
Il y a un fantôme qui s'est glissé là-dedans, manifestement. Non, je crois pas aux fantômes, mais néanmoins, bon, j'ai eu des expériences. Enfin, à l'époque, j'étais jeune, je suivais le mouvement. J'ai assisté à des séances de spiritisme, de Ouija, etc., au cours desquelles il m'est arrivé de voir des choses quand même relativement étonnantes. Voilà, des choses relativement étonnantes, c'est-à-dire, par exemple, je me souviens de mon père qui était médium, il était avec ma tante, et on lui avait dicté un poème qui était un beau poème, d'ailleurs. Bon, malheureusement, tout ça, alors, bon, savoir si c'était une excitation de ses neurones, que c'était son subconscient ou son inconscient qui s'était mis en activité, je ne sais pas. Bon. Il y a des choses parfois qui effectivement dépassent un peu l'entendement, comme mais les fantômes, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un revenir de l'au-delà, quoi. Voilà, c'est ça, hein. Enfin, sous sa forme humaine. Alors je serais un petit peu plus circonspect, et pour tout vous dire, je ne souhaite pas vraiment en rencontrer parce que j'aurais trop peur.
Oui, à propos des fantômes, moi je regrette toujours que ce soit des fantômes qui écrivent. Je rêverais d'avoir un fantôme plombier, mais ça se trouve pas, c'est difficile. Maintenant, bon, on n'est pas tous comme Ariane qui a eu la joie de vous lire. Est-ce qu'on pourrait avoir le bonheur de vous entendre lire un petit extrait, s'il vous plaît?
Gens de mon espèce, des choses inexactes, souvent exagérées, nées de paris raisonnés, probablement parce que nous appartenons à la légende, faites pour être enjolies. Nous sommes souvent décrits comme des tueurs sans scrupules, semant la terreur partout où ils passent, dotés de surcroît d'une quasi-invincibilité. La réalité est moins flatteuse, car si nous ne vivons pas au même rythme que les autres, nous connaissons aussi les affres de la décrépitude qui nous fait ressembler tôt ou tard à de vieux cormeaux déplumés inoffensifs, n'aspirant plus qu'au repos éternel. Au fait, éternité pour nous des revenus d'entre les mains. Ce soir, à la lueur vacillante d'une lampe à l'abat-jour noircie par la fumée des centres de cigarettes, mon seul luxe, les mots jaillissent de fientes d'animaux à peine sevrés et s'alignent mollement sur le papier vénitien que j'ai exhumé dans ce document pour mettre la dernière main à mon discours. Pas question en effet de confier ma prose à une machine à écrire, encore moins à un ordinateur, outil que je ne maîtrise pas. Graphique. L'instant est trop grave au sens de solennel et je perdrai mes sensations qui sont avant tout celles d'un homme. Probablement ni meilleur ni pire que ce n'est celui que je suis devenu et lui enseigner la nostalgie, ce refus d'un présent trop brutal et paradoxalement déshumanisé. Le propos, je le crains, sera trop ampoulé pour être honnête, trop rigide pour être sincère, puisqu'il faut aussi parler de l'autre, celui auquel je dois d'être là, mais c'est, paraît-il, la loi d'un genre que j'appréhende et exècre tout à la fois. Premier obstacle et non des moindres, faire abstraction de l'homme que je fus avant, autrefois et bien avant. De cela, je ne puis parler dans mes écrits sous peine d'être tourné en dérision. Pourtant, dans cette longue trajectoire, le passé est bel et bien présent. Aussi peut-il difficilement être dissocié du personnage que j'ai façonné au fil des décennies, accumulant tromperies et mensonges, rassemblés dans de fausses biographies marquées aussi du sceau de l'omission. Tiens, ma main droite vient de donner des signes de faiblesse. Allons, ce n'est pas le moment de fléchir, me dis-je en m'emparant de la pipette, coincée à la verticale entre deux éditions originales d'un auteur aujourd'hui bien oublié, Paul Bourget, qui connut son heure de gloire à la charnière du 19e et du 20e siècle. Pour ce soir, quelques gouttes suffiront et les lèvres aspirent lentement le liquide vermeil, mélangé à un peu de xérès et à un autre produit dont j'ai oublié le nom pour éviter la coagulation. Il doit me rester un flacon entier de ce subtil mélange, le fameux cocktail d'Orchamps, mon nom d'alors, créé jadis à l'intention de la communauté et qui me permettra de tenir mon rôle demain, au moins jusqu'à la fin des réjouissances auxquelles je ne saurais échapper. En hommage à mon prédécesseur, victime dans les années 60 d'une vilaine cabane montée par l'un de ses rivaux, mon introduction s'achève sur une citation d'Alexandre Dumas. Il y a des services si grands qu'on ne peut les payer que par l'ingratitude, d'autant plus étonnante chez cet écrivain qu'on l'imagine sous des plumes plus acérées ou plus nostalgiques. C'est aussi pour moi l'occasion de retrouver cet auteur truculent, aux appétits monstrueux, toujours pressé d'en découdre avec la vie comme d'autres, dont je fus mon préféré, faute de mieux, jongler avec la mort, mais n'anticipons pas.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre encore la parole? Tout le monde.
Oui, monsieur Joannet, je voudrais vous poser une question très personnelle à laquelle, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de répondre. Avez-vous un lien de famille ou alors connaissez-vous Jean-Yves Joannet? Merci.
Jean-Jacques Joannet, oublié de vous dire que les vampires ne sont pas entre eux, donc ils n'ont pas de famille. Donc, d'où l'explication de ce mystère d'homonymie. Oui, madame.
Voilà, c'est par rapport à la question qui était posée sur votre éventuel journal. Où, voilà, mon impression, c'est que c'est plus difficile d'écrire de l'imaginaire plutôt que de relater des événements qu'on a vécu, je pense, moi. Aussi. Enfin, moi, c'est mon impression.
Oui, mais je suis assez indiscipliné pour écrire surtout ce qui me fait envie, quoi. C'est surtout ça. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de territoires. Bon, j'ai un ordinateur, j'ai 100, 120 ou 130 nouvelles là-dedans. Il y en a, je pense, la moitié, les trois quarts, peut-être même les 9 dixièmes à jeter, mais j'ai éprouvé du plaisir à les écrire, si vous voulez. J'aurais certainement aimé écrire aussi Mais encore une fois, c'est un petit peu pour moi une question de principe. Je ne critique pas du tout hein, ceux qui... j'ai des collègues qui l'ont fait, je ne critique pas du tout que c'est... Au contraire, parce que c'est des gens qui apportent des témoignages aussi. Mais dans le domaine dans lequel j'étais, j'ai préféré m'abstenir. Et puis encore une fois, je vous dis... j'ai encore des idées, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça surtout. Hein. Et je suis un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez vu le Frankenstein de James Whale. Bon, vous savez, à un moment, il se retrouve avec une petite fille, et puis elle lui tend des fleurs. Et puis au bout d'un moment, elle n'a plus de fleurs à lui donner, et il la jette à l'eau, il la noie. Bon, bah, moi, je suis un petit peu comme ça, si vous voulez. Hein. On ne m'arrêtera pas. Voilà. Que ce soit bon ou mauvais, peu importe, hein, mais ça me manquera si j'ai plus rien à écrire. Voilà.
Vous m'entendez correctement ? Oui, alors j'ai une double question, en fait. Il y a deux mots-clés qui à la suite de la lecture de votre roman que j'ai dévoré, que j'ai adoré, qui était un excellent ouvrage, vraiment, bravo. Il y a deux mots-clés qui me viennent à l'esprit, c'est la notion de règles. Il y a des règles internes à respecter quand on est dans le monde des vampires. Et la deuxième chose, c'est la notion d'identité à garder coûte que coûte. Et sur ce deuxième point, j'aurais voulu connaître votre opinion quant à la possibilité de garder une identité aujourd'hui quand on est un vampire, parce que moi j'y crois. Quand on est un vampire, d'ailleurs il y a 300 ans c'était facile de garder une identité, mais aujourd'hui ça devient terriblement difficile. Tout est numérisé, tout est scanné, d'ailleurs je vous ai tous scanné quand vous êtes rentré ici. Et donc j'aurais voulu avoir votre avis sur ces deux points, et puis aussi sur le fait que votre héros, en fait, il est d'un côté froid et d'un autre côté capable d'empathie. C'est un héros qui est capable d'aller régler les problèmes qu'on lui demande de régler, que son chef lui demande de régler. Et donc c'est assez surprenant de voir... un héros comme ça qui est presque... qui a deux facettes. C'est-à-dire qu'il est conscient de ce qu'il fait, de la dureté de certaines de ses actions, et en même temps il les fait parce qu'il y a des règles. Il y a des règles dans le monde des vampires et il faut les respecter. Voilà.
Oui, alors sur les règles, il n'y a pas... Les règles, bon, elles sont imposées par une communauté qui, encore une fois, a le souci de se préserver des bon, il y a qu'un policier, en fait, qui, au cours de ce livre, est confronté, mais suit même la route jusqu'à Londres de mon héros. Mais sans ça, bon, il est évident que s'il a été nommé régulateur, c'est justement pour éviter les excès et faire en sorte que cette communauté ne soit pas démasquée. En fait, c'est ça le principe de base, et ne soit pas non plus viciée par des éléments extérieurs. Pour l'identité, là, je crois que vous avez une réponse, d'ailleurs, qui est, page 39, vous avez le mentor, c'est-à-dire Axel, qui deviendra l'ami d'Edmond, il y a parmi nous des gens animés de bonne volonté, d'autres qui ne sont pas recommandables. Cela n'a rien d'étonnant. Au départ, n'étions pas nous pas tous des humains avec nos qualités, nos défauts. Eh bien, notre identité, nos caractères, nous... Alors là, le héros répond, si je comprends bien, interrompis-je, il n'y a pas de bons ni de mauvais vampires, il n'y aurait que de bons et mauvais humains. Et répond en quelque sorte, toutefois, contrairement aux vivants, nous devons laisser de côté nos vilains penchants et nous montrer irréprochables, voire exemplaires. Ce n'est pas là une question d'éthique, car nous persistons à éprouver, au-delà de ce que nous fûmes, de terribles envies, pulsions meurtrières qu'il est parfois bien difficile de réfréner. Mais il y va de la survie de notre espèce. Donc je crois que j'ai répondu à la question. En fait, en fait, quand il est converti, il est évident que le héros, le vampire, bon, il va être doté de pouvoirs différents. Il va pas apprécier, par exemple, je le note ailleurs, il va pas apprécier un soleil trop fort parce qu'il a pas, il n'est pas irrigué de la même façon, son corps n'est pas irrigué de la même façon. Il va également être doté d'une force peu commune. Il va résister à l'épreuve des balles. Il va sentir, il aura un odorat à développer qui lui permettra de reconnaître. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se parfume quand il a son affaire avec l'officier allemand. Il ne veut pas être reconnu également comme tel. Mais au départ, c'est un vivant mort, c'est-à-dire qu'il emporte avec lui son passé, ses traditions, etc. Il ne perd rien et il est toujours obsédé par la littérature, ce qui le fera arriver à l'Académie française. Donc je crois que l'identité, d'une certaine façon, elle ne change pas. Bon, il est évident qu'il change par la force des choses, parce qu'il est amené à jouer le rôle d'un tueur sans scrupules, mais sans cela, il reste d'une certaine façon ce qu'il était avant. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, puis il est obligé évidemment de falsifier ses papiers pour. Il est obligé de coller aux époques également. Il est obligé de. Peut-être pas là parce que ça se termine tôt, mais bon, il serait à notre époque actuelle, il serait obligé d'avoir son smartphone avec son passe sanitaire. Enfin, je plaisante, mais je veux dire, c'est un peu ça, si vous voulez, il serait obligé de se mettre aux nouvelles technologies. D'ailleurs, je le dis d'ailleurs là-dedans, ils sont obligés parfois de vivre avec leur époque. Hein, alors évidemment, c'est plus compliqué. Plus on avance dans le temps, plus c'est plus compliqué, parce que maintenant, bon, on a du mal à passer au travers quand même de certaines choses. Mais c'est pour ça que je le traite pas comme un mort-vivant, mais je le traite comme un vivant mort, c'est-à-dire que c'est un vivant qui emportait avec lui son passé. Et de même, vous évoquez tout à l'heure, bon, qu'il est capable effectivement de sentiments très forts, et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est ce qui le rend attachant d'une certaine façon, c'est qu'il est capable d'amitié, il est capable d'amour, il est capable d'empathie, et puis même de patriotisme. Si vous voulez. Donc il a pas renié son passé. Voilà. Et je pense que c'est pareil pour les autres.
Finalement, votre vampire a-t-il une valeur métaphorique? Est-il la métaphore de quelque chose ou de quelqu'un? Je n'ai pas lu votre roman.
Non, je ne suis pas allé jusque-là, mais quand j'ai commencé à écrire des nouvelles sur les vampires, j'avais volontiers comparé les agents du fisc à des vampires, par exemple. J'avais monté même une expédition avec une espèce de reine des vampires qui était à Bercy, et que les gens venaient saluer chaque jour. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait une approche métaphorique, parce que ça nous emmènerait trop loin. Mais vous avez aussi, il ne faut pas l'oublier, et je crois que c'est pour ça que votre question est très intéressante, vous avez également d'autres types de vampires. Parce que nous, on parle de vampires qui a une appétence pour le sang, etc., d'origine humaine notamment. Mais vous avez également ce qu'on appelle, et il y a une littérature qui est consacrée d'ailleurs à cela, ce qu'on appelle les vampires psychiques. Le vampire psychique, c'est celui qui, il prend pas le sang, hein, mais c'est celui qui va s'approprier les qualités d'un individu et qui va le soumettre d'une certaine façon, qui va prendre ses propriétés, qui va le soumettre, le transformer plus ou moins en zombie. Hein, et ça, vous avez ça également dans la littérature. C'est moins connu, mais vous avez, par exemple, je crois que c'est dans le... les démons là, comment ça s'appelle, de Dan Simmons là, l'échiquier du mal, L'Échiquier du Mal, qui est un très beau pavé, d'ailleurs, qui est très intéressant. Vous avez un exemple comme ça de vampire psychique. J'ai écrit aussi des nouvelles, moi, vampire psychique. Et ce sont des gens que, après tout, vous pouvez, mais d'une certaine façon, rencontrer dans la vie courante. Hein, qui ne s'est pas retrouvé avec un chef de service qui lui passez-moi l'expression, mais qui lui bouffait le foie, enfin qui le terrorisait, etc. Et qui s'appropriait, pourquoi pas, qui s'appropriait ses travaux. Hein, c'est, effectivement. Mais dans le cas de mon vampire à moi, c'est pas tout à fait ça. Mais le vampire psychique aussi existe dans la littérature et on en parle moins, mais il existe aussi. Hein. Bah oui, les gourous, par exemple, comme dit Pierre Stoll, c'est tout à fait l'exemple même de celui qui va aussi bien conduire ses fidèles à se suicider, à faire un suicide collectif. Donc ça existe, mais pas sous la forme du mien, en tout cas.
Va peut-être vous paraître idiote, mais je n'ai jamais lu de livre de science-fiction, et si je lisais votre livre, est-ce qu'il serait inquiétant? Est-ce qu'il pourrait m'inquiéter?
On n'a pas fait de cauchemar. Non, malgré tout, ça reste quand même un livre un peu tout public, je veux dire, accessible, si vous voulez, à des gens qui... Vous posez une question intéressante, effectivement, c'est que vous avez également le vampire, a traversé un petit peu les âges, et que vous avez également la science-fiction, c'est vraiment intéressant au vampire, au point de vue littéraire, effectivement. Et donc, ça fait partie des terrains, si vous voulez, d'exploration qui permettent de perpétuer le mythe. Mais bon, pour celui-ci, je ne pense pas que vous ferez trop de cauchemars.
Si vous faites des cauchemars cette nuit, n'allez pas voir votre psychanalyste. Vous écrivez à postmaster@lacourdelimaginaire.com et on vous répondra. Bon, je crois que le sujet est épuisé. Ah non, Philippe.
Est-ce que vous avez écrit un mode d'emploi pour devenir fantôme ou vampire? Non? Ce serait intéressant d'avoir un manuel.
Non, j'ai pas à proprement parler un mode d'emploi. Mais c'est un vampire de type, bien que je sois un petit peu, je suis déjà de la génération, comme je vous l'ai dit, je suis un peu plus de la génération Dracula que de la génération Twilight, hein. Bon, c'est clair. Mais néanmoins, quand vous campez un personnage, vous êtes obligé un peu de le définir dans les grandes lignes. C'est-à-dire, effectivement, c'est un vampire qui peut entrer dans une église sans être incommodé. Qui n'est pas gêné par les signes religieux, qui n'est pas gêné par la croix, qui n'est pas gêné par l'eau non plus, qui a néanmoins ses limites, un soleil trop fort, etc. Je ne parle même pas de l'ail, de choses comme ça. Hein, et ce n'est pas non plus un vampire qui a la faculté de se... Alors ça, je ne reproche pas du tout ça, hein, mais encore une fois, c'est un converti. Et pour moi, un converti, c'est un vampire qui... ou en brouillard, ou etc. Bon, c'est ce qui fait un peu ma différence avec certains auteurs, certains autres auteurs, hein. sans pour autant les critiquer, hein, mais il va pas se transformer en loup, en chien, en colonie de rats, etc. Donc c'est mon mode d'emploi, il est très simple. En fait, il est très proche, si vous voulez, de par ses fonctions d'ailleurs et de par sa personnalité, il est relativement proche. À un moment, j'ose même dire que c'est un être intermédiaire, c'est presque un mutant. Vous voyez ce que je veux dire?
Encore d'autres angoisses? Non. Eh bien, je crois que la veine des questions est tarie. Nous allons pouvoir clôturer ce café littéraire. Donc, la Cour de l'imaginaire vous remercie d'être venu assister à la prestation de Jean-Jacques Jouannet. Et on vous donne rendez-vous, on a encore le temps, la date n'est pas fixée, mais enfin pour l'an prochain, on aura certainement un prix 2022 de la Cour de l'imaginaire à l'automne prochain. Et si vous voulez, donc, nous vous souhaitons un bon retour. Et avant, vous pouvez donc prendre connaissance de l'ouvrage de Jean-Jacques Jouannet, ainsi que des deux ouvrages de Gabriel Dubasqui, L'an 1000, l'année du dragon, que certains d'entre vous connaissent déjà, et celui qu'elle a produit depuis, qui est dans la même lignée, qui s'appelle Les Insoumises. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine.